Bonjour et bienvenue à Scal 17-18 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Svatman à la technique. Bon début de semaine à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Voilà, c'est lundi, c'est bien sûr, on doit être là, non? Bonjour Nicolas, tu prends ton micro.
Oui, bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Oui, content de te retrouver.
Et content de te retrouver aussi.
Voilà, pour les 5 prochaines éditions.
Émission.
Ouais, 4.
Jusqu'au jeudi.
Oh, voilà. Alors, en première partie d'émission, nous allons recevoir Louise Thibault qui va nous parler de la vitesse grand V quand on songe à notre évolution. Parler de la vitesse à laquelle a changé notre paysage alimentaire. Voilà. Et puis, deuxième partie d'émission, je vais recevoir un monsieur qui va nous parler de quelque chose qui concerne beaucoup de gens, bien sûr. Hein. Thibault Linné, directeur de la cantine pour tous. C'est quoi ? C'est une équipe qui pour tous ceux qui regroupe des personnes engagées pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Cantine pour tous, au Québec, bien sûr. Donc, c'est un organisme de bienfaisance, bien sûr, qui rassemble les organisations et les entreprises collectives, membres souhaitant de développer leurs services alimentaires afin de mieux répondre aux besoins de leur clientèle. Voilà. Il y a des gens qui vont se demander, c'est fini? Non, c'est pas fini. En deuxième partie d'émission, le directeur de la cantine pour tous, Thibault Linné, viendra me donner beaucoup plus de détails. Alors, comme d'habitude, on part tout de suite en musique avant de recevoir notre chroniqueuse de nutrition. On reçoit, on va tout de suite avec la chanteuse Bella Sinina Zaraiki.
Made Krekor.
De Bella Céline Zaraïke. Alors, voilà, notre chroniqueuse de nutrition, la docteure en nutrition, Louise Thibault, est déjà au bout du fil. Elle va nous parler de quoi aujourd'hui? La vitesse à la vitesse grand V, quand on songe à notre évolution. Comment la vitesse à laquelle on a changé notre paysage alimentaire? Je suis bien curieux de savoir ce qu'elle va nous dire. Qu'est-ce qui a si changé depuis que l'être humain existe sur cette terre? Bonjour, Louise.
Depuis des millions d'années que nous existons.
Oui, depuis des millions d'années. Qu'est-ce qui a changé dans l'évolution dans notre paysage alimentaire? Bonjour, Louise Thibault.
Bonjour Fulgence Black, comment vas-tu?
Je vais bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé à la vitesse grand V, ce changement de paysage dans le paysage alimentaire? Qu'est-ce
qu'on doit... Absolument, en fait, notre paysage alimentaire a changé en très peu de temps.
Oui.
Ce qui représente à peu près une goutte d'eau dans l'océan de notre évolution.
Oui.
Alors, c'est pas peu dire, mais avant tout, j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui même, eh bien, la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires, elle se termine aujourd'hui.
Oui.
Cette semaine, elle s'est déroulée du 1er au 7 février. Et les troubles alimentaires, c'est drôlement important. Il y en a beaucoup dans notre société. Et souvent, ces troubles alimentaires, ils ont pour origine un petit complexe par rapport à notre corps. Hein. On peut en avoir une partie de notre corps qu'on aime moins. Et ceci nous amène à faire un petit régime qui peut au début vous faire perdre quelques kilos, pas toujours à l'endroit souhaité, soit dit en passant, et qui à long terme ne marche pas.
Oui, et Louise, pourquoi tu appelles ça un petit complexe?
Ben, souvent c'est une toute petite chose, un petit ventre, des cuisses un peu plus grosses qu'on le souhaiterait. Ça commence par une toute petite chose.
Oui.
Donc, et puis ça se termine par un régime qu'on abandonne. Et puis, dans notre compréhension du comportement alimentaire, eh bien, c'est souvent ce qui mène à des troubles du comportement alimentaire, des périodes de restriction,
suivies
des périodes de surconsommation. Et c'est ce à quoi ça s'attaque la sensibilisation aux troubles alimentaires.
OK.
Donc, il faut y penser. Et puis moi, je vous dis, en terminant cette petite intro, que ce petit complexe, vous pourriez tenter de le voir autrement.
De quelle manière?
Peut-être en parlant à un ami, une personne qui vous a vu du bien, en partageant avec quelqu'un d'autre vos inquiétudes par rapport à votre apparence et à votre corps. Vous pourriez aussi consulter un ou une nutritionniste qui vous amènerait à voir les choses différemment et vous amener peut-être à mieux vous aimer.
Oui, ça c'est... parce que tu me permets deux secondes, parce que là vraiment, c'est ça le problème, parce que quand c'est comme ça, on finit par ne plus aimer son propre corps, on finit par se désaimer.
Ah, comme c'est bien dit. Alors, le désamour par rapport à son propre corps, eh bien, c'est souvent la source d'un trouble alimentaire.
Ouais.
Qui commence tout petit et puis qui finit par quelque chose de plus important. Alors, il y a des anorexiques, il y a des boulimiques, il y a des... Enfin, je vous nomme les grandes classes de...
Oui, oui, tout ce qu'on connaît, quoi.
Alimentaire, mais voilà. Et puis, évidemment, je vais vous parler, je vais vous dire que tout va trop vite dans notre évolution, en fait, dans l'évolution de notre paysage alimentaire.
Mmh.
Et ça fait référence, en fait, c'est la suite logique de ma chronique de la semaine dernière.
Oui.
Dans laquelle je vous disais que, on a une très grande disponibilité d'aliments. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux produits alimentaires, tous plus goûteux les uns que les autres, qui sont à notre portée et qui sont omniprésents. Et le rythme à laquelle tout ça s'est produit, développé, il est effarant par rapport au point de vue évolutionnaire.
Oui, on est submergé
de notre race, de la race humaine.
Oui, on est submergé de partout, quoi.
Et puis ce que disent les experts en évolution du cerveau, c'est que tout ça est allé beaucoup trop vite pour que notre cerveau et notre corps suivent ce rythme effréné de notre offre alimentaire.
Wow. Quelle est la solution, Louise?
Alors, je vais vous continuer de vous expliquer avant d'en arriver peut-être à une solution. Alors, pourquoi on dit que tout va trop vite? C'est parce que nous avons chacun entre nous quelque chose de primitif. On a un instinct ancestral de survie. Mais nous vivons dans un environnement où tout va très vite, notre environnement n'est plus en harmonie avec notre instinct primitif de survie. Oui. Alors, ce décalage entre nos instincts profonds et notre environnement contemporain, eh bien, il a des conséquences. Et les experts affirment que ce fameux décalage, eh bien, il expliquerait notre surconsommation de nourriture et notre propension à prendre de plus en plus de poids. Et quand je vous dis les experts, je vous parle des experts qui ont consacré leur carrière et publié des centaines d'articles scientifiques et de livres sur l'origine de l'évolution du cerveau et de la conscience.
Oui, oui, oui.
Alors ça, c'est très, très important de reconnaître l'apport des experts de l'évolution du cerveau et aussi de l'évolution de la pensée et de la conscience, parce qu'ils affirment que biologiquement parlant, nous sommes limités dans notre habilité à nous adapter à un environnement qui change très rapidement. Et parmi nos limites biologiques, il y a l'architecture des cellules de notre cerveau. Et de par cela, le temps de réaction que nous avons à toutes les informations sensorielles que nous recevons de notre environnement. Alors, autrement dit, nous pouvons avoir le sentiment dans la vie qu'on peut tout intégrer, on peut s'adapter, mais dans les faits, comme notre environnement a changé plus rapidement que notre pouvoir d'adaptation au niveau de notre cerveau,
oui.
Ben, on peut pas s'adapter. On a des limites biologiques. Donc, ça prend beaucoup plus de temps pour, par exemple, intégrer l'arrivée de plusieurs aliments goûteux à un rythme effréné que notre cerveau et notre corps le permettent.
Oui, mais il ne peut pas s'adapter à cette vitesse grand V, là.
Ben oui, et comme on dit souvent en science, ben, on n'a pas nécessairement le physique de l'emploi pour bien vivre dans notre environnement alimentaire.
Oui.
Et vous avez entendu parler des mouvements
slow food. Oh, ça, j'aime ça. J'aime ça. On n'a pas le physique de
l'emploi. On n'a pas le physique de l'emploi.
C'est poétique, ça. Voilà, j'aime ça.
Ça, c'est quelque chose que j'ai écrit dans un de mes livres.
Oui, oui.
D'emploi.
Oui, oui.
Donc, notre corps, il a été programmé pour la survie, comme je vous le disais. Notre évolution naturelle nous a pourvu d'un corps qui va être mis de gènes économes. Alors, on est programmé pour mettre en réserve plus facilement qu'on ne dépense de l'énergie. Alors, ces mises en réserve-là, ben, ce sont les gras corporels. Et c'est essentiel pour assurer notre survie, notre descendance. Mais maintenant qu'on vit dans un environnement où on a un immense choix d'aliments goûteux et abordables, ça peut nous nuire.
Ah, ouais.
Et certains vont dire que nous vivons dans un environnement qui est devenu hostile par rapport à là où on en est rendu dans notre évolution.
Oui.
Ouais. Alors, on parle même d'un précipice qui s'est créé entre notre instinct et notre environnement. Et ce précipice, ben, il se serait comblé par la surcharge pondérale qu'on constate dans la grande majorité de la population des pays industrialisés. Donc, toutes nos petites cellules, les cellules de notre corps et les cellules de notre cerveau, elles ne comprennent plus pourquoi on ne meurt plus de faim? Parce que, bon, je parle toujours des sociétés industrialisées et de notre évolution, de nos millions d'années d'évolution, où ben, les gens mouraient de faim hein, parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture et on essayait de faire des réserves. Mais maintenant, on meurt de trop manger.
Oui, on met de trop manger. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire... Il y a de la nourriture partout, mais ça ne veut pas dire que c'est de la nourriture de bonne qualité aussi.
Ben non, il y a beaucoup d'aliments ultra transformés dans nos épiceries.
Oui, oui, oui.
Et j'ai lu un article aujourd'hui qui parlait des distributrices un peu partout sur la rue, aussi dans les commerces, qui distribuent de la nourriture, qui distribuent toutes sortes de choses. Alors, on en a trop de nourriture. On est entouré d'aliments et puis notre corps n'en peut plus. Alors, tout ça, c'est toxique, c'est nuisible, c'est même... On peut dire que ça, c'est peut-être on a développé un environnement alimentaire, un paysage alimentaire
qui
est devenu hostile.
un style.
C'est devenu un style. Donc, la solution, parce que j'aime bien... La solution, on va arriver à une solution. Eh bien, ce serait peut-être, un, d'y réfléchir. Oui. Réfléchir à tout ça. Oui. De regarder, chez vous qui nous écoutez après la chronique, allez regarder le contenu de votre frigo, le contenu de garde de votre garde-manger et pensez à est-ce que vous en avez trop d'aliments.
Oui, parce qu'il y a des gens qui ont le congélateur est rempli, même ils peuvent même ne plus sortir de chez eux, vivre même durant un an.
Oui,
il y a des gens comme ça qui tout le temps en train de... C'est comme si demain il y avait une fin du monde. Alors pour la dernière minute qui nous reste, s'il te plaît.
Je vous laisse réfléchir à tout ça. Faites un examen de conscience, faites un examen de votre garde-manger, de votre frigo, et pensez que peut-être que vous en avez trop d'aliments qui vous entourent. Peut-être que je parle de tous les aliments, des aliments sains, des aliments moins sains, de tous les aliments en général.
Oui.
Peut-être que vous vous entourez trop d'aliments, et puis c'est peut-être là que vous pourriez commencer à trouver une solution à votre problème de surconsommation.
Il va falloir faire un tri dans tout ce qu'on a dans nos frigos. Voilà.
Alors, je vous laisse réfléchir à tout ça.
Oui.
Et puis, je vous dis au plaisir de vous retrouver lundi prochain.
La semaine prochaine. Merci beaucoup, Louis. C'est toujours un plaisir.
Et c'est un plaisir partagé.
Bonne semaine à toi et à bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Sur le pavé du moment d'amarrer nos regards, sans douter un instant d'une coïncidence au hasard. Tous nos rêves prennent un sou tatoué de plein d'histoires. Fais attendre nos routes, moi des belles, toi d'ivoire. Ça me fait capoter. Tout complice à ma scène, des calmes me serrent. Ton regard me déchaîne, pour toi je chante ma peine. Mon piano à cavale qui n'a pas mon seuil. Liberté m'allume, mon blues te met en transe. Ça me fait capoter. Une gorge de whisky et tes lèvres sont miennes. De ma musique en juillet, que ma fête soit tienne. Oh, de parler sans amour de ton corps qui m'emporte. De plaisir tu me ceintures, de tes bras tu m'enveloppes. Ça me fait capoter. Crescendo dans ce cadence, tes hanches gouvernent. De moments sans défense, je sens le rock dans tes veines. Me donne du feeling. Mais pour moi toi ce soir, on sera tôt ou tard. Ça me fait capoter.
Ma poco, ça me fait capoter, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est tout frais, 2022, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un clin d'œil à ce musicien, chanteur, auteur, compositeur, de rock, guitariste, pianiste, il fait tout, hein. Il fait tout ce garçon-là, ouais. C'est Montréalais. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Tout de suite, je vais parler d'abord, avant de passer à la prochaine pièce musicale, de la grande victoire du Sénégal, football, soccer. Oui, le Sénégal s'est qualifié pour la première fois. S'est qualifié ? Non, c'est pas le terme. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Voilà, c'est le vrai terme, ça. Pour la première fois, ça veut dire que l'année prochaine, le Sénégal aura une étoile. À partir de maintenant, ils auront des étoiles sur le maillot bientôt. Ils vont avoir une étoile. Chaque joueur de l'équipe nationale du Sénégal va avoir une étoile sur son maillot. C'est leur première Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ils ont battu l'Égypte. Hein. Il fallait pas l'Égypte qui a déjà eu 7 fois cette coupe-là. C'est-à-dire qu'ils ont 7 étoiles sur leur maillot, bien sûr. Et donc, c'est le Sénégal pour une première. Ça s'est passé au Cameroun. Une finale de titans. Ça, c'était le match. 90 minutes de jeu, 0-0. 30 minutes de prolongation, 0-0. Ils sont allés au tir au but, pénalty, bien sûr. Voilà, et puis c'est ce qui s'est passé. C'est le Sénégal qui a 4-2 au tir au but. Le Sénégal a fait... Sadio Mané qui n'a pas raté son pénalty au tir au but, mais il avait raté un pénalty dès le début du match. Le gardien, bon, est-ce qu'il a raté? On ne peut pas dire ça. Le gardien a arrêté le premier pénalty. Ça dépend comment on le dit, hein, comment on l'interprète. Voilà, bravo aux Sénégalais, au peuple sénégalais, aux joueurs surtout. Et avec ce gardien que j'adore beaucoup... Mendy, qui est le gardien de Chelsea en Angleterre d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il était dans les buts, il a arrêté un pénalty au tir au but. Bravo, mais bravo aussi à l'Égypte, hein. ils n'ont pas démérité ça, il faut le dire. Ils ont très bien joué. Mais c'est ça le sport, c'est ça le foot, c'est ça le soccer. Il faut, surtout quand c'est une coupe, hein, tu n'y a pas de match aller-retour là. Tu as gagné, tu as perdu. À l'année prochaine, 2023, ça va se passer en Côte d'Ivoire. Alors, et c'est pas s'il y a des gens, une minute rapidement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans le cadre de Mois de l'Histoire des Noirs, il y a le Café littéraire interculturel. C'est sur Zoom, hein. c'est un questionnement sur l'identité, les relations au sein du genre humain d'ailleurs. Une rencontre au village mental avec le slammer, poète slammer, Fabrice Kofi, accompagné de son guitariste Québec, Guillaume Soucy, bien sûr, et de Marie Serette Mathieu, une auteure lavalloise née en Haïti. Oui. Donc l'activité est organisée par l'Assemblement en partenariat avec la Société littéraire de Laval. Allez-y sur le site assemblement.com. C'est aujourd'hui 7 février de 19h à 20h30. Ça se passe en ligne, c'est pas en présentiel là ou bien dans une salle physiquement. Voilà, on va faire une dernière pause musicale avec qui? Rien d'autre que la grande Céline Dion. Oui, Flying on My Way.
Something shifting in the air. If I'm not mistaken, dust is clearing everywhere. Memories awaken. My feet on the runway. It's a beautiful day. I look.
I'm flying on my own.
On vient d'écouter Céline Dion, Flying on my own. Oui, dans la pièce, en chantant, elle dit on my own ou on my way, on my own, on my way. Mais le titre de la pièce, c'est Flying on my own. Céline Dion, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, il y aura une autre pièce musicale. Et que l'invité ne sera pas juste après la première pièce musicale, il a un contre-temps. Donc, je vais parler d'autres choses. Et puis après, quand il sera joignable, on va le joindre. Sinon, moi, je vais passer un coup d'œil comme ça, faire un résumé du sujet pour lequel je l'ai invité. Restez à l'écoute, à tout de suite, on revient après la petite pause publicitaire. Et la...
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Yo-yo strikes again.
This shall not be for if you take your love. If you saw me, me saw you, I want a piece of love. What time is a polar ground with this off? What black barbo, no more psyche, you don't want she. Can't be fear. Want she, yeah. I walk a dog, watch a gun, big love. Walk on like them, you mate, no man can't miss it. Got to try with Nico. Say there, look up on a tap, is it love? I call a thing. My girl fika so hard. Automatic will begin. No apusu star. Baby go on, yeah. Go fika Bogota. Only be the sabi. Monya nga ogi no defa. If you care me a keto. If you lay me late. Ala samay make a photo. Fanya devu kai gambi giku. Me angi. Summer, Jabu, see my door, and boom. In I give my one year, I live boom. So, Sunday, I do a bitch as summer, baby. Paki, like, come, Jai, Guadiki, Mabota, Pofuat. Accident, they want us a family. Alas, I'm a Mokongo, do man, and we see the money, they are lobby, they are our sons, a bitch. They can pay for the one in man, and I will see them, I come to me, I bow. The phone came safe, I bet them go so too. Ali Besha to Garuta Kiana Iwoko. Mi mamu khanit fa moni di miyoko. Kome ke sabem foli. Aso li bianga koni. E amo iku janga yu moni. Li bianga si koi mu kwa na iku ne angi.
Voilà, on vient d'écouter Young Boss avec ce tout dernier tube qui vient de nous sortir encore, Angifi, Young Boss. Voilà. Voilà, je vais parler un peu de moi, de l'histoire des Noirs avant de recevoir, avant notre, avec l'arrivée de notre invité sur après. Bon, ben on va l'appeler encore, on va essayer. Il est en déplacement actuellement. Alors, lancement du mois de l'histoire, du mois de l'histoire des Noirs qui a déjà eu depuis le premier du mois. Aujourd'hui, c'est le 7, ça fait déjà une semaine, oui. Voilà, ça fait déjà 30 jours, 7 jours, une semaine. Donc, c'est la 31e édition. Hein, et cette année, le thème, c'est honorer le passé et inspirer le futur. On aura bientôt, le 11, si je ne me trompe pas, la porte-parole francophone qui va nous parler un peu de cette 31e édition. Cha Franck. Et puis le 18, on va recevoir le président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. C'est déjà booké tout ça. Merci à la recherchiste de cette émission, Catherine Baudron, qui a déjà booké tout ça. Et puis, cette soirée dont je viens de vous parler, je vous ai parlé avant la pause publicitaire, Café littéraire des Noirs, c'est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, avec Fabrice Kofi, ce soir sur Zoom de 19h à 25h, Slammer. Voilà, Montréalais, Slammer, accompagné d'un guitariste, de son guitariste, avec qui il fait toujours la scène, Guillaume Soucy et Marie Serette Mathieu, qui est auteur lavalloise, écrivaine lavalloise, bien sûr. Et puis, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs aussi, il y aura le 17, c'est soutenu aussi par l'Assemblement. L'Assemblement qui organise et soutient des rencontres interculturelles à Laval, d'ailleurs, pour favoriser le vivre ensemble. Ça, il faut le préciser. C'est l'intégration des nouveaux arrivants et la sensibilisation de la société d'accueil à leur réalité. Voilà, c'est le code point interculturel à Laval. Donc, cet assemblement-là reçoit beaucoup, organise beaucoup d'événements là-bas. Donc, le 17 février, il y aura aussi un conte et percussion animé par Daniel Godin. Et c'est un atelier qu'elle propose d'ailleurs, une exploration du rythme et du conte pour sensibiliser les personnes participantes d'ailleurs à la diversité culturelle. Découvrir et comprendre l'autre par l'approche du contenu culturel véhiculé par le conte et un apport rythmique par l'apprentissage des percussions corporelles. Elle est mieux placée, parce que je ferai tout pour l'avoir en entrevue ici avant le 17, pour qu'elle vienne nous parler de ça. Ça va être le 17 février de 18h30 à 20h. Voilà, toujours dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Daniel Godin, québécoise, qui s'inquiète très, une personne très... C'est une comédienne, attitrée d'ailleurs... Qui touche à tout, dans les films, dans les je ne sais quoi, percussion, danse, qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Elle fait tout. Daniel Godin, c'est un petit clin d'œil, donc j'espère qu'on aura l'occasion de la voir ici, avant cet événement qu'elle va animer le 17 février, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Alors, de quoi je voulais parler encore? Cette histoire de Coupe d'Afrique dont je parlais vers la fin de la première partie de l'émission. Les Sénégalais, comme je l'ai dit, c'est leur première Coupe d'Afrique. Il y a des pays qui se sont qui ont ce trophée deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, comme le Cameroun, sept fois, comme l'Égypte, la Côte d'Ivoire, deux fois. Il y a d'autres pays qui n'ont jamais eu, comme le Sénégal, qui vient de se décrocher ce trophée. Donc le Sénégal maintenant est au sommet de l'Afrique. Voilà, après deux échecs en 2000 en finale, en 2002, en 2019. La sélection sénégalaise ouvre enfin son palmarès dans cette compétition. C'est souvent cruel pour elle, parce que quand on se retrouve en finale, qu'on retourne chez soi sans ce trophée, c'est cruel. Souvent, c'est des matchs, la Coupe d'Afrique des Nations se prépare toute l'année, et puis bon, mais les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble toute l'année non plus. C'est durant les rencontres entre les équipes nationales des différents pays que ces équipes-là se rencontrent d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'il manque souvent de fluidité, même s'il y a assez de vedettes dans chaque équipe nationale. Ces joueurs évoluent beaucoup plus avec leur club respectif. C'est ça. Donc, le Sénégal a pu se tailler. Voilà. A pu se tailler. Il est devenu d'ailleurs le 15e pays à graver son nom au palmarès de la CAN. Le 15e pays. Ah, j'ai dit, bon, bien, bravo à eux. Voilà. Puisque j'ai le temps, je peux aller un peu plus dans les détails. Je dis, bon, ça fêtait, il ne fallait pas voir les images. La folie furieuse, comme on dit. Les gens qui couraient partout dans le stade de Dembélé au Cameroun. Et ça pleurait dans les rues de Dakar. Bon, sans compter la diaspora sénégalaise qui... Voilà. Et le gardien sénégalais a été nommé le meilleur gardien du monde. Maintenant, quand vous l'appelez, vous dites « Monsieur, son excellence ». Voilà, comme il est. Mais c'est un très bon gardien. C'est quelqu'un qui, moi, si j'étais gardien, gardien de but, au soccer, bien sûr, j'allais beaucoup copier sur lui. C'est quelqu'un qui quand tu le vois dans les buts, là, tu sais qu'il fait pour arrêter les balles, tu te dis « Ouf, j'ai l'impression que je vois un chat qui se détend, qui tombe sur les deux pattes, les quatre pattes, ou bien quelque chose comme ça ». Alors là, il a participé à la qualification ou bien du Sénégal, parce qu'ils n'ont pas encaissé assez de buts durant tout le périple au Cameroun qui a duré un mois. Donc il faut lui dire bravo, merci, pas seulement Sadio Mané qui est un des grands joueurs du tournoi d'ailleurs, qui évolue, qui jouait contre son partenaire de club Liverpool, Mohamed Salah qui est égyptien, voilà, qui a perdu la coupe parce qu'il était triste parce qu'il n'a jamais eu de coupe avec l'équipe nationale d'Égypte, bien que l'Égypte a déjà rapporté cette coupe 7 fois. Voilà, 7 fois la coupe d'Afrique des Nations, mais pas avec lui, Mohamed Salah. C'était là sa grande tristesse. Et puis en face de lui, de l'autre côté, le Sénégalais Sadio Mané, qui est son concurrent de club, hein, son attaquant à Liverpool. Donc tu te dis, bon, ben, comment ça va se passer maintenant dans le club? Qui prend le dessus? À qui l'entraîneur va accorder beaucoup plus de confiance? La question se pose par là, on ne sait pas. Mais on le dit bravo, c'est ça le sport. Mais c'est resté tout de même fair play. Arriver en finale, c'est quelque chose. Et ils ont été vraiment vigilants, il faut le dire. Ils ont joué 3 fois des prolongations jusqu'au tir au but. Hein, et il faut le faire. T'as l'impression qu'ils ont des poumons de je ne sais quoi. Alors, on fait une pause musicale avant de recevoir notre invité, s'il est joignable maintenant. Oui, avec qui cette fois-ci? Avec Sylvain Lelièvre, le coup du téléphone.
J'étais pas là, j'ai répondu que j'étais sorti. Mais comme j'étais pas là, j'ai répondu que j'étais sorti. Il y a des appels comme ça dont faut se méfier la nuit.
Lelièvre, le coup du téléphone. Notre invité est maintenant disponible. On va parler de la cantine pour tous. Thibaut Linné, qui est le directeur de la cantine pour tous, il va nous expliquer ce que c'est. C'est une équipe de gens pour tous qui regroupe des personnes engagées pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Québec. Et puis, il y a la cantine dans les écoles, la cantine à domicile, la mutualisation des équipements, tout ça. Il est mieux placé, c'est parce que c'est lui le directeur de la cantine pour tous. Bonjour Thibaut Linné, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien et vous?
Oh ouais, je vais bien, merci. Enfin, on peut vous avoir, je me suis dit. Alors là, je me suis tellement documenté sur votre organisme. Je me suis dit, il y a tellement de trucs à dire là-dessus, mais le peu de temps qu'on a, on va dire le maximum possible. Alors, c'est quoi la cantine pour tous?
Alors, la cantine pour tous, c'est un regroupement d'organismes,
oui,
qui œuvrent en sécurité alimentaire, donc à s'assurer vraiment que tout le monde puisse avoir accès à de la nourriture,
oui,
sur l'ensemble des organismes qui sont situés au Québec, à Montréal, dans les régions,
oui,
rurales et urbaines du Québec, et qui ont décidé de se rassembler pour mettre ensemble en place des projets collectifs pour lutter contre des enjeux qu'ils ont, eux, ces organismes-là, chacun dans leur quartier.
Oui.
Donc on parle en particulier des problèmes d'insécurité alimentaire des enfants et des aînés.
Oui, je prends la balle au bon, on va commencer par là. La cantine dans les écoles nourrit l'avenir du Québec, comment ça se passe?
Eh bien, d'abord, en introduction, je dirais que le Canada, c'est un des rares pays développés qui ne nourrit pas ses enfants dans les écoles.
Oui, quand j'ai lu ça sur votre site, j'ai dit, mais je rêve ou bien quoi? Non, 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 parce que saviez-vous que le Canada est le seul pays du G7 à ne pas offrir des programmes de repas scolaires accessibles à l'ensemble des élèves du primaire?
Oui, Ouais, ça fait bizarre de dire ça. En général, le Canada, il score bien dans les politiques sociales.
Oui.
Mais là, pour celle-ci, non. Donc, ça veut dire que dans la plupart des pays du monde, les enfants qui vont au primaire ont accès à des repas et c'est soit gratuit pour tout le monde, soit oui. Les parents contribuent, payent en fonction de leurs revenus.
Oui, oui.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de frein à l'accès à un repas pour les élèves dans les autres pays du monde. Ici, au Canada, c'est les parents qui préparent des boîtes à lunch pour leurs enfants. Bon, ça, tout le monde le sait.
Oui.
Mais avec les problématiques qui viennent avec, qui sont que parfois, c'est compliqué pour certains parents de pouvoir préparer des lunchs pour leurs enfants.
Oui, il y a des laissés pour compte. Oui, oui.
Mmh. Oui, il y a des laissés pour compte. Il n'y a pas de filet de sécurité. Et puis, il y a aussi des enjeux liés à la saine alimentation. Vu que je sais pas, tous ceux qui ont des enfants savent que c'est pas toujours évident de trouver des lunchs pour leurs enfants le lendemain. Quand on regarde un petit peu la qualité de la nourriture qui est distribuée aux enfants dans les écoles primaires, c'est rarement, c'est pas toujours le cas, mais c'est rarement de la saine alimentation. Et donc, on a un double enjeu d'insécurité alimentaire et de saine alimentation dans nos écoles.
Ah ouais,
donc
ouais,
la position de la cantine Bourdou, les organismes communautaires sont bien placés parce qu'ils interviennent dans les écoles depuis longtemps, mais plutôt que de faire des espèces entre guillemets du bricolage dans les écoles de quartier autant qu'on peut, les organismes se sont rassemblés au sein de la cantine pour tous pour dire et si on lançait l'impulsion, nous les organismes communautaires, pour qu'on puisse avoir, comme dans les autres pays, un programme de dîner scolaire dans les écoles.
Oui.
Et donc, il y a 3 ans, la cantine pour tous a lancé la cantine dans les écoles.
Mm-hmm.
C'est un modèle, mm-hmm. on a reporté par des organismes d'économie sociale, donc des organismes de quartier, où les parents peuvent commander des repas en ligne à l'organisme de leur quartier. Qui fait traiteur scolaire.
Mm-hmm.
Et pour casser, on va dire, l'accessibilité, la barrière économique à ces repas-là, nous, on propose aux parents de faire une contribution volontaire. Donc, les parents payent en
fonction. Volontaire ? Waouh !
Volontaire.
Oui.
Ouais. Donc, c'est les parents qui évaluent leur propre capacité à contribuer. Nous, on suggère un prix.
Oui.
Les parents payent en fonction de ce qu'ils veulent. Ça veut dire que tous les enfants de l'école peuvent commander dans leur repas, personne ne sait qui a payé combien. Parce que l'objectif aussi, c'est d'avoir un programme qui est non stigmatisant.
C'est génial, voilà. Et puis, il y a tellement d'avantages, Thibault. Avantage de votre programme, c'est offrir un dîner sain et abordable, permet aux enfants de manger à leur faim, garantit la non stigmatisation, donner un répit aux parents et puis renforcer le lien. Tout ça, c'est beau, ça.
Oui, on pense d'ailleurs qu'un programme d'alimentation scolaire pourrait aller beaucoup plus loin que ça.
Oui.
Parce qu'on pourrait aussi faire de l'approvisionnement local et puis acheter de la nourriture, des aliments du Québec qu'on transformerait. Pas tout évidemment, mais maximiser en tout cas ce qu'on peut acheter localement. Faire des aliments qu'on utiliserait, des repas avec de l'agriculture biologique par exemple. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec un programme d'alimentation scolaire qui pourrait aussi bénéficier à nos agriculteurs et à nos transformateurs locaux.
Et puis quand je vois les chiffres, Thibault, je vous le dis sincèrement, je vous dis bravo, vous et votre équipe et les organismes avec qui vous travaillez. En 2021 et 2022, la cantine dans les écoles, c'est 2114 enfants inscrits depuis septembre.
Ouais.
1001 repas servis par jour en moyenne et 26 écoles participantes. Mais tout ça, c'est beau.
Ben, on a commencé petit, on a commencé avec 3 écoles parce qu'il fallait tester le projet, et puis en fait on est passé de 3 à 15 à 26 écoles, et puis maintenant on a une liste d'attente avec des écoles qui est longue comme le bras, donc on est...
comprendre.
On a eu des nouvelles intéressantes, le gouvernement fédéral semble ouvert à l'idée d'investir dans l'alimentation scolaire.
Merci. Parce qu'ils savent que ce que vous faites là, c'est vraiment génial, quoi.
Le gouvernement provincial semble ouvert aussi à cette question-là, on espère que dans les prochaines années, on pourra dire qu'on a fait des belles avancées pour l'alimentation scolaire des élèves du primaire.
Vous allez revenir pour nous parler de ça ?
Ben, j'aimerais ça.
Ah ouais, quand tout serait conclu, ouais. Et puis, il y a 5 nouvelles régions du Québec qui sont desservies, et puis il y a 10 membres traiteurs. Voilà, les membres traiteurs, comment vous arrivez ? Est-ce que c'est vous qui les contactez ou bien c'est eux qui viennent à vous ?
Eh bien, les deux, en fait... C'est eux qui ont créé la cantine pour tous. Donc, ils ont créé cet organe pour pouvoir travailler ensemble.
Oui.
En gros, enfin, c'est certains d'entre eux qui ont créé la cantine pour tous.
Mmh.
Et puis ensuite, on a diverses façons de pouvoir rejoindre le mouvement, soit des organismes entendent parler de nous.
Oui.
Et via ce qu'on fait, ce qu'on est comme réseau, ou les projets qu'on propose, il y en a d'autres ainsi dont on pourra parler tantôt. Donc là, ils nous contactent. Et pour devenir membre de la cantine pour tous, c'est très simple. Il suffit d'être un organisme à but non lucratif ou une coopérative à but non lucratif. Et de produire des repas pour les populations vulnérables. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui peuvent devenir membres de la cantine pour tous.
Oui.
Sinon, dans certains cas, nous, on prend contact avec certains organismes quand les milieux nous mettent en relation.
Ok.
Parfois, il y a des gens des écoles qui nous mettent en relation avec des traiteurs, de la santé publique.
Etc. Oui. Oui.
Donc là, on est rendu 41 membres dans 10 régions.
Oui.
Voilà. On est bien contents. Puis, on continue à explorer. Dans les territoires où on n'est pas encore implanté.
Je suis content pour vous aussi. Voilà, là, bon, on va quitter les écoles pour aller maintenant à la cantine, à domicile, des plats congelés, oui, savoureux qui sont livrés à nos portes.
Eh bien, ce qu'on constate en regardant les organismes qui sont membres de la cantine pour tous, c'est qu'ils font tous beaucoup de choses différentes. En général, quand ils s'attaquent à l'insécurité alimentaire dans leur quartier, c'est pas juste pour les enfants.
Oui.
C'est souvent pour les populations, on va dire, à faible revenu ou les populations vulnérables, c'est selon,
oui,
qui, au sens large. Donc, il y a aussi des populations à faible revenu qui sont ni des enfants ni des aînés, mais c'est principalement quand même les enfants et les aînés. Et les solutions qu'ils ont développées localement, elles, il y avait que j'avais appelé les petites initiatives locales d'alimentation scolaire,
oui,
tantôt.
Oui.
Mais il y a aussi de rejoindre les aînés chez eux pour leur offrir des repas, encore une fois, sains, directement chez eux, pour ceux qui sont à mobilité réduite, des repas qui sont accessibles économiquement pour ceux qui sont à faible revenu.
Oui.
Et en gros, pouvoir renforcer la capacité qu'ont les personnes vieillissantes à pouvoir continuer à se nourrir de manière
saine, oui.
De manière saine, exactement.
Mmh,
donc, là, maintenant, la question, c'était, avec la pandémie, les gens qui sont restés coincés chez eux, c'était comment est-ce qu'on fait, nous, pour renforcer, on va dire, cette capacité, cette offre de notre réseau à offrir des repas,
oui,
et en faire la promotion. Eh ben, on a monté une plateforme, en fait, qui permet de centraliser, on va dire, toutes les offres des repas congelés de nos membres, qu'ils avaient lancé chacun de leur côté,
oui,
pour que ce soit beaucoup plus simple pour les clientèles qui ont besoin de ce genre de service-là, de retrouver l'offre en économie sociale, et donc de commander des repas,
oui,
pour chez eux. Ça permet aussi d'avoir une plus grande diversité de plats, évidemment, vu qu'il y a de nombreux organismes qui proposent leur service. Et puis aussi, on a, comme pour les écoles, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les personnes pour qui même abordable, ça reste trop cher.
Oui,
et
oui,
donc,
oui.
Et parce qu'il y en a pour qui, donc là, les repas qui coûtent à peu près 5,50 €.
Ils ne peuvent pas se le payer.
Même si ça paraît abordable, il y en a pour qui c'est encore trop.
Oui, parce que quand je vois les pavés de saumon au carré pour 5,50 €, mais c'est donné, ça.
C'est pas cher.
Non, c'est pas cher.
Mais
c'est...
ça reste trop cher pour certains, malheureusement.
Waouh.
Ouais, donc là, on parle d'insécurité alimentaire extrême, évidemment. Et puis, dans ces cas-là, vraiment, encore une fois, c'est comme pour les écoles, la barrière économique est un frein qui est trop grand pour bien se nourrir.
Parce, oui,
qu'on peut toujours trouver du macaroni au fromage à 1,50 €.
Oui.
Mais c'est pas ça qu'on veut que les gens nécessairement mangent. Donc, l'idée, c'est de rendre ces repas accessibles. Et on a aussi, nous, on travaille avec des HLM, avec des organismes partenaires,
oui,
pour permettre d'identifier des personnes qui ont besoin d'une aide spécifique pour pouvoir avoir accès aux repas congelés chez eux.
Oui.
Et on a aussi un modèle de tarification sociale, c'est-à-dire des prix à rabais là, pour ces populations-là.
En dessous de 5 $?
C'est en bas de 5 $ aussi.
Ouais,
c'est des,
ouais,
repas qui sont à partir de 1,50 €, je pense.
Waouh.
Bah, mais ça dépend du plat. Donc, on est content, nous, de pouvoir tester ce modèle-là pour voir comment rendre la saine alimentation,
mmh,
encore plus accessible.
Plus accessible à tous, oui. Et puis, il y a tellement d'avantages. Il y a un outil de commande en ligne, il y a des repas congelés, savourés, variés. Il y a la livraison porte-à-porte, des prix abordables. Comme vous le dites, vous allez encore essayer de voir pour que ça aille en dessous, en bas de 5 dollars, et puis supporter une mission sociale. Mais il n'y a rien de tel. Vous et votre équipe, je vous dis bravo. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, quand le fédéral et le provincial vont vous dire oui, n'hésitez pas, venez nous parler de ça encore, s'il vous plaît, Thibault, parce que là, vraiment... Alors, pour la dernière minute qui nous reste rapidement, quel est le dernier mot à nos auditeurs pour comment vous joindre, pour ceux qui veulent devenir membres, pour ceux qui veulent s'engager auprès de vous, avec vous?
Eh bien, pour les organismes qui veulent devenir membres de la Cantine pour tous, il suffit de nous rejoindre via notre site web.
Oui.
Pareil pour les écoles ou les régions qui aimeraient nous voir... débarquer avec elle.
Oui.
Pour tous ceux qui souhaitent avoir accès au repas de nos traiteurs, livrés à domicile, dans repas congelés, parce qu'on a beaucoup parlé des aînés, parce
oui.
que c'est ça notre cas de cible, mais en fait, c'est des repas qui sont accessibles à tout le monde. N'importe qui peut aller sur la plateforme de la cantine à domicile.
Je peux passer des commandes là-bas, moi ?
Exactement. Et puis l'avantage, c'est que nous, ça permet de faire des revenus pour nos membres, pour
merci.
Qu'eux puissent
merci.
Soutenir...
Merci de le préciser comme ça, oui.
Ben oui, pour qu'eux puissent soutenir tous leurs programmes de sécurité alimentaire qui sont difficiles à financer.
Okay.
La distribution de paniers, okay. les restaurants communautaires, etc.
Oui.
Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet.
C'est cantine pour tous en un seul mot, .org.
Ouais, la cantine pour tous.
La cantine pour tous, oui.
Exactement.
Merci beaucoup, Thibault Linné, directeur de la cantine pour tous, comme il a dit, la cantine pour tous en internet.org. Au plaisir de vous réentendre, surtout quand le fédéral et le provincial vont venir pour dire voilà, on embarque avec vous, on est avec vous, parce que c'est tellement beau ce que vous faites. Merci à vous et au plaisir de vous réentendre, Thibault.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Maybe I'ma get a little shy, 'cause everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide. All I wanna do is just hold on somebody, but no one ever wants to get to know somebody. I don't even know how to explain this, I don't even think I'm gonna try. Get a little nervous. Maybe I don't go out anymore. Feeling like I really don't deserve this. Life ain't nothing like it was before. 'Cause all I wanna do is just hold somebody, but no one ever wants to get to know somebody. If you go and look under the surface, maybe I'm a little insecure.
Baby, that's okay.
You know that's okay.
Charlie Puth, The Way I Am. Voilà, merci à toi Nicolas, on se retrouve demain. Oui, et je dis merci à Louise Thibault qui était là en première partie d'émission pour nous parler de la vitesse grand V de nos changements, voilà, alimentaires. Merci à Thibault Linné, directeur de la cantine pour tous. Allez-y sur le site lacantinepourtous.org, vous avez toutes les infos là-bas. Et puis bon, ben, chers auditeurs auditrices, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure sur les ondes du Canal M. Prenez soin de vous et de vos minutes surtout. Et je vous dis... Ciao.